Bonsoir, bienvenue. Pure Politique s'attaque ce soir à un gros morceau soumis au vote du peuple suisse le 12 février prochain, la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Un thème complexe, technique, que nous allons tenter de vulgariser au maximum pour vous permettre d'y voir le plus clair possible. Nous allons particulièrement évoquer les enjeux de la RIE 3 pour le canton du Jura. Que veut la réforme ? Que le système fiscal du pays soit en conformité avec les nouveaux standards internationaux. Elle veut donc supprimer l'imposition à taux réduit dont bénéficient les sociétés à statut spécial et en contrepartie offrir une série d'autres avantages, notamment à celles qui investissent dans la recherche et le développement. Les cantons baisseront aussi l'impôt sur le bénéfice des entreprises. Ils doivent recevoir en compensation une part plus large de l'impôt fédéral direct. La gauche a lancé le référendum. Elle craint une forte baisse des rentrées fiscales et par conséquent que la population en pâtisse, soit par une baisse des prestations publiques, soit par une augmentation d'impôts faite aux contribuables.
RFJ, pure politique. Raphaël Chalvera.
Cette campagne de la RIE 3 est un véritable débat gauche-droite, une campagne intense. Nous vous proposons ce soir une opposition entre le PDC Jura, favorable à la réforme, et le PSJ, qui est opposé. Pour cette émission, les démocrates chrétiens ont désigné Charles Juillard. Bonsoir.
Bonsoir. Je dois dire que je suis aussi représentant du gouvernement et de la conférence des directeurs des finances, surtout ce soir, et pas seulement du PDC Jura.
Oui, mais Pure Politique invite les partis, et vous avez été désigné par votre parti.
Certes.
Donc, vous êtes le ministre des Finances, également président des directeurs cantonaux des Finances. Vous êtes donc actif dans cette campagne aussi au niveau national. Le Parti Socialiste, lui, a désigné Loïc Dobler. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du PSJ et député au Parlement. Charles Juillard, on le sait, le thème est complexe. Vous avez déclaré ce matin dans les colonnes du journal Le Temps que les débats mènent à la désinformation davantage qu'à l'information. Je ne dois pas rendre l'antenne quand même.
Non, pas du tout. Mais je ne parlais pas des RFJ quand je parlais de ça. Il suffit d'un tout petit peu lire les réseaux sociaux et puis voir notamment les bases d'attaques dont je suis l'objet, y compris sur des publications de nos adversaires. C'est là que je dis que le débat est en train de déraper et c'est un tout petit peu regrettable. Et puis aussi, alors, de part et d'autre, il y a cette inflation de chiffres qui repose sur pas grand-chose, alors que nous, typiquement, au niveau de la conférence des directeurs des finances comme au gouvernement jurassien, on peut s'appuyer sur des chiffres qui sont fiables.
Loïc Dobler, pourquoi ce sujet est devenu si émotionnel selon vous ?
Alors il est devenu émotionnel parce que ça va toucher directement au financement des collectivités publiques d'une part et puis d'autre part parce qu'il crée une injustice assez flagrante entre les petites et moyennes entreprises d'une part et les grandes entreprises d'autre part et puis également avec le contribuable lambda que sont les salariés et là on voit vraiment qu'on se dirige vers une injustice en cas d'acceptation de cette réforme de la position des entreprises 3 et donc effectivement on tombe assez rapidement dans l'émotionnel. Charles Juillard évoquait des bases attaques qui pouvaient y avoir dans le cadre de ce débat. Je crois que ça existe dans les deux sens. Je crois que c'est notre responsabilité de ne pas se mettre au niveau du bac à sable et puis qu'il y ait après d'autres attaques. Je crois qu'on est aussi assez grand pour en faire abstraction.
Alors messieurs, pour poser le socle de ce débat, je vous propose de dire chacun équitablement, juste en quelques points essentiels à vos yeux, pourquoi il faut accepter ou rejeter la RIE 3. Charles Juillard.
Eh bien, c'est justement pour gommer des injustices qui sont aujourd'hui existantes entre les entreprises à statut spéciaux fiscaux et les entreprises dites ordinaires. Nous voulons nous conformer aux normes de l'OCDE et traiter sur un pied d'égalité toutes les entreprises. C'est exactement un des buts de la réforme. C'est aussi pour maintenir des emplois. Des emplois dans ce pays, parce que si on ne fait rien pour garder ces entreprises à statut spéciaux, eh bien c'est beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Alors ça ne semble pas beaucoup émouvoir les opposants. C'est un tout petit peu regrettable. Nous voulons aussi maintenir des recettes fiscales pour les collectivités publiques et puis dire que c'est finalement un investissement sur l'avenir. Un investissement parce que ça permet de créer des conditions cadres favorables pour que des régions comme le Jura, mais aussi comme la Suisse, restent tout à fait compétitives par rapport à une concurrence internationale qui est très vive, très forte et qui est encore attisée ces derniers temps par la Grande-Bretagne suite au Brexit et par le nouveau président des États-Unis qui annonce des taux d'imposition des entreprises extrêmement bas, ce qui met sérieusement en danger des entreprises multinationales qui sont actuellement en Suisse.
Loïc Dobler.
Alors, tout d'abord parce qu'elle est profondément injuste, encore une fois, vis-à-vis des PME. Charles Juillard disait qu'on est, semble-t-il, peu enclin à se soucier du nombre d'emplois. Je crois que je rencontre, en tout cas, aussi souvent, si ce n'est plus souvent que lui, des responsables d'entreprises. Il faut dire aussi que 80% des petites et moyennes entreprises, c'est elles qui font la richesse de l'emploi dans ce pays, ne payent pas ou peu d'impôts, donc elles ne sont pas concernées par cette réforme de l'imposition des entreprises 3. Donc elle est premièrement injuste à ce niveau-là. Elle sera extrêmement coûteuse pour les collectivités, que ce soit la Confédération, les cantons et surtout peut-être les communes, qu'on oublie un peu trop souvent dans nos débats. Et puis, à l'heure où 530 000 personnes sont touchées par la pauvreté dans notre pays, il paraît quand même pour le moins dérangeant de faire des cadeaux à des grands groupes, respectivement à des actionnaires.
Alors, le cadre est posé, on entre dans le vif du sujet. Charles Juillard, les autorités fédérales reconnaissent que la RIE 3 va engendrer dans un premier temps des baisses de recettes pour la Confédération, les cantons et les communes. Pour le Jura, on l'a appris aujourd'hui, ce sera entre 4 et 8 millions de francs. Le gouvernement s'engage à ne pas augmenter les impôts des contribuables jurassiens. Alors quid, s'il n'y a pas de hausse d'impôts pour les personnes physiques, est-ce qu'on se dirige, pourquoi pas, vers un nouveau plan cantonal d'économie pour compenser ?
Avant de parler d'un nouveau plan, il faut déjà aller au bout de celui qui est en route, hein, parce que on constate aujourd'hui, et Loïc Dobler a participé à la table ronde comme moi, il sait très bien que dans les 35 millions d'économies que nous avons recherchées au travers d'Optima, il y avait 12 millions qui étaient estimés pour faire face à la RIE 3. Donc on voit qu'ici, on est dans les chiffres à peu près voulus par le plan Optima. Donc il faut arrêter de dire qu'on va imaginer un nouveau plan, on ne va pas augmenter l'impôt des personnes physiques, on devra aller au bout de ce programme Optima et nous le faisons en bonne intelligence avec les communes puisque dans le cadre de nos propositions, toutes tiennent compte des communes, toutes seront discutées avec les communes et avec les partenaires qui sont concernés et au bout du compte, c'est l'ensemble des collectivités publiques jurassiennes qui ont un intérêt à terme à ce que cette réforme puisse se faire.
Mais dans un premier temps, est-ce que ce n'est pas justement les communes qui vont particulièrement trinquer ?
Mais pourquoi ?
On entend qu'il y a en tout cas beaucoup d'inquiétudes.
Oui, mais pourquoi ? Il n'y a jamais personne qui a pu dire pourquoi c'était exactement les communes. Moi, je vous dis que s'il y a une baisse de rentrée fiscale, c'est sûr que 60% c'est pour l'État, 40% c'est pour les communes, dans le Jura, hein, puisque c'est nous qui calculons les impôts, c'est nous qui les dispatchons aux différentes communes. Donc, on sait que ça va coûter, si ça nous coûte, nous, disons 100, ça coûte 40... sur 100, ça fait 60 à l'État, 40 aux communes. Mais on tient compte aussi de ces éléments-là. Et dans les mesures compensatoires, nous tenons aussi compte des communes. Et c'est pour ça que c'est faux de dire que ce sont les communes qui vont supporter cet effort, puisque l'effort sera consenti de la même manière par l'État comme pour les communes. Et l'État propose même de remettre dans la nouvelle RPT cantonale qui est actuellement en discussion un certain montant qui correspond à la part des communes que nous allons recevoir au titre de l'augmentation de notre rétrocession sur l'impôt fédéral direct. Il y a peu de cantons qui le font. Ça, j'en sais rien comment ça se passe dans les autres cantons. Je dis qu'aujourd'hui, dans le Jura, c'est faux de dire que les communes vont trinquer.
Loïc Dobler, la gauche parle d'arnaque en évoquant cette réforme, un terme fort. Un communiqué des opposants qui nous est parvenu cet après-midi nous dit que les mesures compensatoires du gouvernement jurassien, dont parlait Charles Juillard, sont totalement aléatoires pour minimiser finalement la portée de cette réforme. Expliquez-nous.
Bon, déjà, je crois qu'on ne veut pas passer comme ça à vitesse grand V sur la question des communes. Charles Juillard donne son avis, il a le droit de le donner. Si on a un taux de 15% qui est appliqué aux entreprises, on aura environ 14 millions de pertes pour le canton, et puis 9 millions pour les communes, qu'il s'agira ensuite de compenser d'une manière ou d'une autre. Ces 9 millions pour les communes, on nous dit aujourd'hui, on va prévoir un certain montant, etc. On n'en sait rien aujourd'hui. Il faut être clair, on n'en sait rien du tout.
Citez les chiffres du gouvernement, citez-les tous, vous ne pouvez pas dire que vous n'en savez rien. Aujourd'hui, ce sont des hypothèses que le gouvernement
a établies.
Oui, des hypothèses,
donc on n'a pas de certitude.
Des propositions que nous allons faire au Parlement, il appartient au Parlement de décider s'il est d'accord avec les propositions du gouvernement. Si vous êtes d'accord avec les propositions du gouvernement, puisque vous êtes au Parlement, eh bien voilà les chiffres globaux et les chiffres finaux, parce que c'est surtout ceux-là qu'il faut prendre en compte.
Si je peux juste terminer, 9 millions pour les communes, alors moi, je n'ai pas l'habitude d'évoluer dans les hautes sphères politiques comme Charles Juillard, mais par contre, moi, j'ai été responsable des finances dans une commune. Et puis, je sais l'impact que la moindre décision peut avoir. Et puis, si on peut estimer qu'au niveau de la Confédération, on peut parler en termes de milliards qui peuvent être absorbés, etc., au niveau d'une commune en particulier, au niveau des communes de moyenne importance et de petite importance, quand on parle de 100 000 francs, je peux vous garantir que c'est des sommes considérables. Et aujourd'hui, je peux entendre que le gouvernement nous dise qu'au niveau de l'État, il n'y aura pas d'augmentation de la quotité d'impôt pour les personnes physiques, je peux l'entendre. Par contre, qu'on nous dise la même chose pour les communes, je trouve que ce n'est pas correct. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner de garantie, ni vous, ni moi, sur le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation dans les communes de la quotité d'impôt par rapport à la réforme de la position des entreprises 3. Ça serait malhonnête de dire le contraire.
Ça gère toujours un peu ce fossé entre les communes et les cantons.
Je ne crois pas, parce que moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin justement pour aller rencontrer les communes et discuter avec elles, y compris de cette problématique-là. D'une manière générale, les communes comprennent que cette réforme, elle est indispensable si on veut garder des emplois, si on veut garder des recettes fiscales. Parce que si on ne le fait pas, on va s'exposer à des pertes sèches. Parce qu'ici, on fait un investissement, on consent que pendant quelques années, nous allons encaisser moins d'impôts, mais avec, comme tout investissement, la probabilité, et la RIE2 l'a démontré, que nous ayons de nouveau, plus tard, des réformes, des rentrées fiscales supplémentaires qui permettront de financer des prestations publiques. Donc je crois que si on ne fait pas cette réforme, c'est clair qu'on va enregistrer des pertes sèches, et c'est là alors que les collectivités locales et les contribuables personnes physiques devront sérieusement passer à la caisse, soit sous la forme d'augmentation de fiscalité, soit sous la forme de diminution de prestations. Mais ici, en l'occurrence, nous disons clairement que ces montants que nous allons verser, nous allons, d'ailleurs, le point de la RIE3, c'est un point qui sous-tend toutes les discussions que nous avons dans le cadre de ce dossier de répartition des tâches et des charges entre l'État et les communes, dans des groupes de travail mixtes entre l'État et les communes, parce que nous sommes conscients que nous devons établir un dialogue concret, faire des propositions concrètes pour que le citoyen, au bout du compte, l'effet ne soit pas plus important après qu'avant ces différentes réformes.
Loïc Daubert, sur ces mesures compensatoires, justement, que la gauche, les opposants jugent aléatoires.
Alors, c'est pas qu'on les juge aléatoires, c'est que...
C'est ce que votre communiqué dit.
C'est que pour l'instant... on peut les estimer au mieux comme, je dirais, un scénario optimiste, au pire comme un fantasme, parce que vraiment sur les différentes propositions qui sont faites, il y en a un certain nombre dont on peut encore douter de la réalisation. J'en veux pour preuve qu'on fasse participer les entreprises au financement des crèches. Alors moi, je le souhaite bien évidemment, mais ça fait 8 ans. Que la discussion a commencé sur ce sujet-là. Donc ça fait 8 ans qu'on nous dit qu'on va déboucher à une solution là-dessus, et puis qu'il n'y en a toujours pas. Donc moi je veux bien qu'on nous fasse toutes les promesses possibles et imaginables, mais encore une fois, je crois que les promesses, finalement, elles n'engagent que ceux qui y croient. Et aujourd'hui, permettez-moi de douter qu'on ait mis 8 ans à déboucher sur rien du tout, et puis que tout à coup, en une année, on va trouver une solution concrète en la matière. Et puis j'ajoute que si cette solution compensatoire, typiquement pour les crèches, eh bien, elle va se répercuter sur l'ensemble des entreprises, puisqu'elle serait, en théorie, calculée sur la masse salariale. Donc ça veut dire que la petite ou la grande entreprise passera à la caisse. Alors que la réforme de la position des entreprises 3, elle se fait uniquement au bénéfice des grandes entreprises.
C'est faux, c'est archi-faux ce que vous dites. Et c'est ça que je dis qu'on pollue le débat avec des fausses informations. Toutes les entreprises jurassiennes, y compris les plus petites, sont concernées par cette réforme parce que toutes vont y gagner quelque chose.
Alors la gauche, juste pour préciser, dit que 80% des entreprises jurassiennes ne verront pas la couleur de cette RIE.
Oui, mais ça c'est faux. C'est faux parce qu'on ne parle là que de l'impôt sur le bénéfice. Or, nos mesures, si vous les lisez complètement, elles parlent aussi de l'impôt sur le capital. Et toutes les sociétés anonymes, toutes les SARL, payent un impôt sur le capital qui sera réduit. Toutes ces entreprises verront leur imposition diminuer. Alors, c'est vrai, mais c'est comme chaque fois qu'on fait qu'on touche à la fiscalité, ne sont concernés que ceux qui payent des impôts. Ceux qui n'en payent pas sont moins concernés que les autres. Mais à partir de là, je peux affirmer ici que toutes les sociétés jurassiennes sont concernées par cette réforme.
Donc, Loïc Daubert, vos chiffres sont faux.
Non, ils sont justes. Ils sont tirés des informations du gouvernement. Il faut juste préciser quand même le taux d'imposition du capital. Le ministre des Finances pourra nous les rappeler parce que c'est tellement minime actuellement qu'on va effectivement encore le diviser par 2. Mais quand on divise presque rien par 2, ça donne toujours pas grand chose au final. Hein.
Bon, moi j'aimerais plutôt qu'on parle quand même d'investissement, parce que ici c'est quand même un investissement sur l'avenir. Si on commence de diviser des zéros par zéro, ça restera toujours zéro.
Oui.
Moi ce qui m'importe c'est surtout qu'il reste de la substance à imposer. Or, si on ne fait rien, c'est le risque majeur, c'est de voir des entreprises quitter la Suisse, quitter le Jura. Parce que même si nous avons peu d'entreprises à statut spécial dans le Jura, il faut dire que nous serons impactés quand même doublement.
D'abord, c'est une menace réelle pour vous, cette délocalisation d'entreprises.
C'est une menace réelle, absolument, elle est réelle. Et c'est pas une vue de l'esprit des personnes qui sont favorables à cette réforme. Pourquoi le canton de Genève a déjà réagi il y a au moins 5 ans en annonçant à l'époque David Hilaire, responsable des finances vert, donc on peut en tout cas pas traiter d'ultralibéral, a dit pour pouvoir maintenir les entreprises multinationales à Genève et tous les emplois qui y sont liés, on doit abaisser notre taux d'imposition qui est aujourd'hui de 24 à Genève, 24, pour traiter toutes les sociétés de la même façon, il faut le baisser à 13. Nous ne parlons même pas de 13, nous parlons d'entre 15 et 17. Mais c'est tout simplement parce que ces sociétés ont dit clairement, elles ont dit clairement, si il ne se passe pas cet élément-là, eh bien, nous allons partir.
Loïc Dobler, est-ce que, justement, en disant non à la RIE 3, vous assumeriez des délocalisations d'entreprises qui sont dans le Jura?
Mais c'est là où, en fait, on nous accuse de jouer sur la peur des gens, mais la théorie qui consiste à dire, si vous refusez ce projet, vous allez à devoir assumer une catastrophe économique, c'est guère mieux au niveau des arguments, parce que c'est faux. C'est faux parce que la réforme de l'imposition des entreprises 3, personne conteste qu'il faille supprimer les statuts spéciaux pour les entreprises. C'est réclamé par nos partenaires au niveau européen, au niveau de l'ECDE. Il n'y a personne qui souhaite que la Suisse figure sur une liste noire et puis ait des problèmes pour exporter au niveau de son industrie notamment, en particulier dans le canton du Jura. C'est faux. Ce qui est dit par les opposants, c'est que le projet initial du Conseil fédéral allait beaucoup moins loin que ce qui a été retenu par les chambres fédérales, que les chambres fédérales ont considérablement alourdi ce projet. Et puis j'en veux pour preuve que ce n'est pas une question que de gauche et de droite. L'ancienne conseillère fédérale qui portait ce dossier, Widmer Schlumpf, l'a même, elle, reconnu que cette réforme avait été passablement alourdie lors du débat aux chambres fédérales. Et même elle, aujourd'hui, refuse de dire qu'elle votera oui à cette réforme de l'imposition des entreprises 3. Donc c'est trop simple. C'est simplement la gauche qui...
Attendez, monsieur Doblet. Vous dites que vous étiez prêt à soutenir le projet initial du Conseil fédéral. Alors je vous renvoie sur le site internet du Parti Socialiste Suisse, qui, au mois de juin 2015, tirait déjà à boulet rouge sur la proposition du Conseil fédéral, qui disait déjà qu'il ne soutiendrait pas la proposition du Conseil fédéral. Alors, ne venez pas nous dire aujourd'hui que si c'était cette proposition-là qui avait été retenue, vous l'auriez soutenue. Parce que c'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit sur votre site internet.
Alors Charles Juillard doit connaître un peu mieux la politique que moi pour savoir qu'il y a une différence entre s'opposer sur un projet et puis lancer un référendum sur un objet. C'est quand même deux choses différentes.
Non, mais venir dire que vous auriez soutenu alors que vous avez écrit sur votre site internet national que vous vouliez vous opposer à ce projet, pour moi c'est la même chose. Alors là on joue sur les mots, on fait de la sémantique et ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est la réalité du terrain, c'est effectivement...
Ouais, on se souvient aussi qu'à un moment donné vous n'étiez pas tout à fait favorable au projet des chambres fédérales.
C'est vrai, et puis nous nous sommes battus pour corriger ça. Mais est-ce que Mme Wiedmer-Schumpf...
Mais ça a été corrigé.
En partie oui, parce que justement, on y viendra si vous voulez, dans les outils qui sont mis à disposition. Ils sont mis à disposition, à part les patent box qui est obligatoire pour l'ensemble des cantons, mais avec un taux de dégrèvement qui peut être réglé par les parlements cantonaux, et là vous aurez à vous prononcer sur cette question. Aujourd'hui, on constate clairement qu'il y a une boîte à outils qui est mise à disposition des cantons. Il y a un cadre fédéral, et c'est sur celui-là qu'on vote, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, on vote sur un cadre fédéral qui ensuite permettra aux cantons d'adapter leur fiscalité pour sauver ses emplois de ces sociétés à statut spécial, sauver ses emplois et ses impôts de ces entreprises à statut spécial. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Tout le reste, c'est du débat philosophique. Moi, je veux que ces emplois restent parce que c'est des emplois à haute valeur ajoutée, c'est des emplois à haute compétence qui rapportent beaucoup d'argent au commerce local, aux autres entreprises que celles qui les emploient et qui rapportent aussi beaucoup d'argent aux collectivités publiques.
Alors, on partage à 100% le même point de vue sur cette question-là. Il n'y a personne qui a envie que des emplois disparaissent, il n'y a personne qui a envie que des sociétés
partent dire non à la RIE 3
et repartir sur un projet qui soit beaucoup plus simple, qui soit beaucoup moins lourd pour les finances publiques, que ça soit au niveau de la Confédération, des cantons et des communes. Et ça, c'est possible. Vous l'avez même reconnu dans le temps récemment. Je crois qu'on peut tous se mettre d'accord assez rapidement.
Non, je ne pense pas.
Alors, ça voudrait dire qu'effectivement, les chambres fédérales ne tiennent pas compte de la volonté populaire. Si effectivement, le 12 février, le peuple suisse refusait cette réforme de la position des entreprises 3, ça serait quand même quand même pour le moins étonnant que les chambres fédérales ne tiennent pas compte du signal donné par la population.
Mais si, elles seront bien obligées de le faire. Si tel est le résultat sorti des urnes le 12 février, ce que nous ne souhaitons évidemment pas. Seulement, ce que vous oubliez, c'est que ça prend du temps. Et vous le savez très bien, sur le plan fédéral, ça prend du temps. Or, nous n'avons pas le temps. Le 1er janvier 2019, les statuts fiscaux spéciaux doivent être abolis parce que la Suisse s'est engagée à les
donc
abolir.
Donc, on n'aurait pas le temps de refaire une janvier. Proposition de réforme.
Non, je ne pense pas. Et le risque, c'est justement qu'entre-temps, nous ayons un certain nombre de ces entreprises qui sont dans l'incertitude aujourd'hui. Et il faut couper court à cette incertitude. Parce que sinon, vous avez de ces entreprises internationales qui vont partir et qui vont péjorer, justement, les résultats suivants.
Alors, dire qu'on ne pourrait pas faire un plan B, en fait, parce que c'est de ça qu'il est question, parce qu'on doit adapter d'ici au 1er janvier 2019, il y a quand même une déclaration ces derniers jours du directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, qui n'est pas le président du Parti socialiste, hein, il me semble, comme quoi la Suisse pourrait très bien préparer un nouveau projet en cas de non le 12 février. Et puis ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas les syndicats qui le disent, ce n'est pas les partis de gauche qui le disent, c'est un responsable de l'OCDE, ce n'est quand même pas n'importe qui.
On est d'accord, mais vous savez très bien qu'en Suisse, ce qui fait la force de notre pays aussi, sur le plan international, c'est que nous respectons les engagements que nous prenons. Bien nous sûr. Avons pris des engagements que les statuts spéciaux fiscaux seraient abandonnés au 1er janvier 2019.
Ça, de toute façon, ils le seront.
Eh bien, s'ils le sont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces entreprises seront taxées à un taux normal, sans exception. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez toutes ces entreprises, ou en tout cas une grande partie des entreprises, qui vont partir. Puis après, vous pourrez développer tous les projets que vous voudrez. Vous n'arriverez pas à aller les récupérer, parce qu'une fois qu'elles seront parties en Irlande, en Grande-Bretagne, ou bien aux États-Unis ou à Singapour, pour aller les rechercher, je vous souhaite bon courage.
Alors, messieurs, moi, j'aimerais juste qu'on parle clairement d'emploi et d'attractivité de l'économie. Les partisans de cette RIE3 disent oui à l'emploi, oui à l'attractivité. Est-ce qu'en rejetant cette RIE3, ce n'est pas tirer le frein à main, finalement, Loïc Dobler?
Non, encore une fois, on l'a dit, 80% des sociétés dans le canton du Jura ne payent pas ou peu d'impôts. Moi, je prends le pari que c'est sur ces 80% d'entreprises, il y en a une bonne partie qui ont quand même des employés dans le canton du Jura. Ces derniers temps, malheureusement, je dois rencontrer pas mal d'entreprises dans le cadre de mes fonctions. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a des entreprises qui sont dans des situations compliquées. Et puis ça, dans plusieurs domaines. Est-ce qu'on peut vraiment penser aujourd'hui que c'est de baisse fiscale que des entreprises ont besoin lorsqu'elles sont en difficulté, lorsqu'elles sont dans une situation économique particulièrement inconfortable? Je pense que c'est pas de ça dont les petites et moyennes entreprises ont besoin à l'avenir. Et quand les défenseurs de cette réforme de l'imposition disent qu'ils défendent l'emploi en priorité et puis les PME, au final, quand on analyse un peu les chiffres, ça fait presque sourire.
Non, mais ça, je crois que dans l'hypothèse que je conteste, en disant que ça va, que 80% des entreprises ne seront pas concernées, les autres qui payent plus de 80% de l'impôt, si celles-ci rencontrent des difficultés, si celles-ci voient leur marge s'amenuiser parce que la concurrence est forte, baisser la fiscalité, ça leur redonne une bouffée d'oxygène aussi par rapport aux marges qu'elles réalisent, ce qui leur permettra de nouveau d'investir. Donc je crois qu'il faut voir que ces entreprises qui payent beaucoup d'impôts, c'est aussi celles qui emploient beaucoup de salariés dans ce canton, donc qui offrent beaucoup d'emplois dans ce canton. Donc on ne peut pas simplement dire, parce qu'il y en a 80 qui payent presque pas d'impôts, je répète qu'elles en payent toutes, à partir de là, il ne faut pas faire une réforme, parce que si c'est que pour les autres, évidemment ce sont les grandes qui offrent beaucoup d'emplois et qui payent beaucoup d'impôts, ceux-là, c'est égal, il adviendra ce qu'il adviendra. Moi, je ne peux pas tenir ce raisonnement-là. Enfin, en tant que responsable politique et des finances de ce canton, je ne peux pas. Et je pense que les responsables des finances des communes ne peuvent pas le tenir non plus.
Mais ça tombe bien, personne n'a tenu ce discours-là, parce qu'encore une fois, personne n'a dit qu'il ne fallait pas faire de réforme.
Alors, si personne n'a tenu ce discours-là, c'est tout bon. On avance dans ce débat. Charles Juillard, dans le paquet des allègements fiscaux proposés par la réforme, chaque canton peut choisir ceux qu'il souhaite appliquer. Est-ce que ça ne va pas être un peu la jungle, quelque part, et engendrer une concurrence malsaine entre les cantons, également sur le taux d'imposition qui est fixé?
Alors, les cantons ne peuvent pas tout à fait utiliser ceux qui ne veulent pas. Il y en a un certain nombre, on ne va pas venir dans le détail, parce que c'est la technique qui doivent être pris par les cantons. C'est les amortissements, c'est ces éléments-là, c'est la patent box qui est obligatoire, mais avec la possibilité d'un allègement qui peut être modifié. Mais j'entends, pourquoi cette les cantons se sont battus pour justement qu'il y ait cette palette qui soit offerte. Ben, tout simplement, c'est parce que c'est la situation économique de ce pays qui le veut. Vous avez deux exemples qui sont diamétralement opposés, mais qui illustrent parfaitement cette situation. Vous avez Genève, qui a misé sur le taux, un taux bas, à 13 et quelques, mais qui a dit clairement, les outils qui se mettent à disposition, on va les prévoir, mais avec un taux de dégrèvement très faible. On pourra un peu les utiliser, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux, parce que par rapport aux entreprises qui sont sur le territoire genevois, c'est le taux qui sera le plus important pour les garder. Zurich, ils ont fait exactement le contraire. Ils arrivent avec un taux de 18,2, donc bien supérieur à la moyenne qui sera retenue, puisqu'aujourd'hui, la moyenne, on se situe à 14 à peu près, sur le plan suisse. Ils disent, nous, on a besoin, typiquement de la NID, qu'on ne veut pas, nous, dans le Jura, vous avez vu, on l'a annoncé, on ne la veut pas, elle est controversée sur le plan suisse, on va dans le sens des opposants, on ne la veut pas. On s'est toujours battu contre, on a dit que pour nous, c'était un non-sens, mais enfin, pour Zurich, elle est nécessaire. Zurich l'utilisera. Les patent box, Bâle en a besoin, Bâle l'utilisera au maximum. Donc c'est aussi des éléments qui sont importants pour coller à la réalité de l'économie de ces différents cantons.
Donc on
ne
va pas se regarder en chien de faïence entre cantons pour essayer...
Pas plus que maintenant, parce qu'aujourd'hui déjà les taux, aujourd'hui on joue sur les taux avec une amplitude qui va de 12 à 24 dans les taux d'imposition, ça veut dire 12 points d'amplitude. Avec une réduction 12, ça sera le plus bas, on ne pourra pas descendre plus bas, mais avec une moyenne comme je disais, à 14 ou 15, on voit que l'amplitude s'est considérablement réduite et au niveau des taux, le risque de concurrence sera en tout cas pas plus fort qu'aujourd'hui.
Mais donc typiquement, on va effectivement rajouter la concurrence fiscale entre les cantons qui vont pouvoir jouer sur deux tableaux, à la fois sur le taux d'imposition et puis sur les différents outils qui sont mis à disposition par cette réforme de l'imposition des entreprises. Différents outils sur lesquels aujourd'hui on n'a aucune connaissance des potentielles conséquences qu'il pourrait avoir d'un point de vue financier.
Quels effets vous voyez à cette concurrence ?
Je veux dire, pour des cantons comme le nôtre, c'est juste catastrophique parce qu'on ne pourra jamais s'aligner sur un certain nombre de cantons. Je pense que si on regarde le canton de Vaud, à tout hasard, qui a des finances qui sont quand même autrement plus enviables que les nôtres, il faut être clair, on ne pourra jamais s'aligner sur un certain nombre de cantons parce que, tout simplement, on ne pourra plus financer un certain nombre d'éléments qui sont essentiels au fonctionnement de l'État jurassien. Mais...
C'est quand même tout à fait étonnant de ce que vous dites, M. Dobler, parce que vous dites que c'est catastrophique. Alors que vous n'arrêtez pas de dire, quand on parle de fiscalité dans le Jura, vous dites la fiscalité, c'est un élément secondaire pour les entreprises quand elles choisissent de venir s'établir ou non chez nous. C'est ce qu'on entend habituellement lorsqu'on a un débat cantonal sur la fiscalité. Puis ici, vous dites la concurrence fiscale, ça sera une catastrophe pour le canton du Jura. Non, je ne pense pas que ce soit une catastrophe. Non, je ne le pense pas, raisonnablement pas, parce que justement, la concurrence, elle sera en tout cas pas plus forte qu'aujourd'hui, parce qu'aussi nous avons introduit ce qu'on appelle, ce que j'ai baptisé modestement, le bouclier fiscal à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a des garanties dans la loi fédérale qui dit que malgré tous les outils qu'on pourrait mettre bout à bout, il y restera de toute façon au minimum à 20% de bénéfices qui restera imposable. Or nous avons fixé dans la proposition que nous allons faire au Parlement, c'est de monter ce seuil à 40% parce que nous avons le souci de pouvoir financer les prestations que l'État et les communes servent à ces
Je tiens juste à préciser, quand je dis que la concurrence fiscale est catastrophique, notamment pour le Jura, c'est pas parce que moi je prône la concurrence fiscale, mais parce que je connais les majorités politiques dans ce canton, et puis effectivement, lorsqu'il s'agit de comparer les différents taux d'imposition, on nous rabâche systématiquement, là effectivement dans le cadre notamment de débats lors d'élections, qu'il faut baisser les taux d'imposition, notamment pour les entreprises, et puis... Moi, alors, je suis tout à fait convaincu que ce qui est déterminant pour une entreprise lorsqu'elle s'implante quelque part, c'est en partie le taux d'imposition, on est d'accord. Ah, mais par contre...
Ça, c'est nouveau, mais je prends note avec plaisir.
Mais par contre, quand on écoute votre discours, et là, ça m'inquiète vraiment qu'un membre de gouvernement jurassien puisse avoir un tel discours, c'est qu'on dirait qu'il n'y a que le taux d'imposition qui est important. Moi, je crois qu'il faut avoir un peu plus confiance en notre pays, et puis se dire qu'on a aussi des infrastructures de qualité... qu'on a un système de formation de qualité, qu'on a une capacité d'innovation qui est forte, parce que si c'était juste le taux d'imposition qui était important, on a des taux d'imposition qui sont plus bas en Bulgarie qu'en Suisse. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la Bulgarie est devenue le nouvel Eldorado de l'économie mondiale ? Non, il y a besoin d'autres éléments que le taux d'imposition pour attirer des entreprises, et puis pour financer les éléments dont je viens de parler, eh bien il faut des recettes fiscales, tout simplement.
C'est absolument vrai, mais je vous ferai simplement observer que, sans aller au-delà de nos frontières, regardez la situation d'Obwald. Bon, c'est un tout petit canton au centre de la Suisse, tout à fait par hasard, mais qu'on connaissait évidemment de ne pas trop regarder. Mais depuis qu'ils ont fait une réforme fiscale drastique, ils sont bientôt un canton contributeur. Alors qu'ils étaient juste devant nous comme canton bénéficiaire de la RPT, ils sont bientôt un canton contributeur parce que leur capacité de ressources a augmenté.
On peut aussi parler de Lucerne qui doit refaire des plans d'austérité, qui doit supprimer
Ils ont baissé l'imposition sur les personnes physiques. Ici, nous ne sommes pas sur les personnes physiques, nous sommes sur les personnes morales. Et vous ferez remarquer, vous le savez, dans le Jura, nous avons fait très peu d'efforts en matière de fiscalité pour les entreprises, alors que nous étions bien positionnés sur les comparaisons intercantonales il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans les 23, 24e rang.
Alors, c'est peut-être pas très important, bien sûr, mais
malgré tout, c'est la réalité quand il s'agit d'être attractif par rapport à d'autres cantons. Et de nouveau, cette réforme ici, si on ne fait rien, et typiquement sur le plan cantonal, c'est le deuxième aspect où nous sommes touchés par ricochet, je dirais. C'est simplement qu'avec les annonces qui ont été faites par les autres cantons, tout en sachant que nous avons sur notre territoire de plus en plus d'entreprises, notamment dans le domaine de l'horlogerie, qui ont été rachetées par des grands groupes, qui ont des sites de production dans plusieurs cantons, ces grands groupes, ils disent clairement ouais, « on ne va pas partir maintenant ». Mais le jour où on devra faire des investissements, soit pour renouveler notre parc machine, soit pour implanter quelque part le développement de nouveaux produits, ben on ira où les cieux sont un peu plus cléments que chez vous.
Ce qui est drôle, c'est que il y a un grand groupe horloger qui a justement décidé de déplacer un de ses sites dernièrement dans un canton qui a un taux d'imposition plus élevé. Donc on voit clairement que c'est pas uniquement le taux d'imposition qui est déterminant pour les entreprises, mais qu'il y a toute une autre série d'éléments.
C'est pour ça que c'est pas catastrophique cette réforme.
Qui sont financés par des recettes fiscales, et si aujourd'hui on baisse de manière drastique les recettes fiscales, eh bien on pourra plus financer ce qui constitue en fait notre atout principal.
Alors juste quand même dire drastique, on peut démontrer avec ce que nous avons publié aujourd'hui, c'est grosso modo une diminution de 20% des recettes fiscales des personnes morales, à prendre comme un investissement, parce que nous estimons pour notre part que avec l'attractivité que nous allons conserver et mis au bout d'une formation de qualité, avec justement des terrains encore à disposition relativement bon marché, etc., tous ces éléments-là mis bout à bout vont permettre d'implanter de nouvelles entreprises qui nous permettront de récupérer cet investissement que nous faisons aujourd'hui. Mais si nous ne faisons pas cet investissement aujourd'hui et que, admettons qu'il ne se passe rien en termes de RIE3, alors c'est sûr que si nous, on ne bouge pas, on va tout perdre.
Mais vous voyez, on nous dit, d'un côté, on est obligé de quelque part s'aligner parce qu'on doit préserver l'attractivité de notre canton. Donc si on la préserve, on ne la renforce pas. Voilà. Et puis d'un autre côté, on nous dit, grâce à cette réforme, on va renforcer notre attractivité et puis on va attirer de nouvelles entreprises. Donc à un moment donné, on a quand même du mal à comprendre quel est le discours politique. Soit on veut effectivement renforcer l'attractivité du canton du Jura en baissant de manière conséquente l'imposition des entreprises. Et dans ce cas-là, il faut s'attendre à des pertes fiscales conséquentes. Soit on dit, on essaye de faire la plus petite réforme possible pour préserver les finances cantonales, mais dans ce cas-là, on ne va pas renforcer l'attractivité du canton du Jura. Il faut essayer.
Si, ça s'explique tout à fait. Si vous permettez, j'aimerais quand même répondre sur cette question parce que ça s'explique tout à fait.
Je reste en retrait, mais
il n'y a pas de problème. Mais j'entends, il faut expliquer les choses, puisqu'il faut que les citoyens jurassiens sachent exactement quelles sont les réflexions de leur gouvernement sur cette question, parce que nous n'avons pas fait ça la tête dans le sac, et ce n'est pas pour faire comme les autres que nous essayons de proposer ici une réforme fiscale qui s'inscrit dans le cadre de ce débat qui finalement pourra être poursuivi, puisqu'aujourd'hui, je rappelle, nous allons voter sur une réforme sur un cadre fédéral qui ne contient pas tous ces éléments-là. Aujourd'hui, on dit qu'il faut en tout cas maintenir la position du canton par rapport aux entreprises existantes, celles qui sont chez nous, et il faut le rendre attractif pour faire venir d'autres entreprises. Et c'est pour ça que nous proposons d'introduire dans notre législation, alors que nous n'y sommes pas obligés, la super-déduction pour frais de recherche et développement à 150%, ce qui s'inscrit tout à fait dans la ligne que nous avons voulu sur le 6e programme de développement économique, voulu par le Parlement, et ainsi que notre adhésion au parc suisse de l'innovation du Nord-Ouest avec les deux balles, parce que nous voulons innover, nous voulons diversifier cette économie jurassienne, et c'est avec ces outils-là que nous permet, que on pourra effectivement diversifier, donc renforcer l'attractivité, donc maintenir les entreprises existantes et renforcer notre attractivité par des outils différents.
Alors justement, cette innovation, on en parle depuis de nombreuses années dans le Jura, il faut diversifier notre économie, il faut innover. Le Jura veut proposer la déduction de 150% du bénéfice des coûts de recherche et développement. Qu'est-ce que vous pensez, Loïc Daubert, de cette mesure justement qui vise la diversification et l'innovation dans notre économie ?
Ben, j'aimerais déjà que Charles Juillard puisse nous dire combien ça va coûter.
Alors peut-être une réponse de Charles Juillard.
Tout pendant que nous n'aurons pas d'entreprise.
Eh ben voilà.
Nous n'avons pas aujourd'hui d'entreprise. C'est pour ça
qu'il n'y a pas de réponse.
Mais si, mais ça coûte pas cher. Aujourd'hui, ça coûte pas cher parce que nous n'avons pas d'entreprise qui pourrait en profiter.
L'ordonnance du Conseil fédéral, elle n'est même pas encore établie sur cette question, forcément, puisqu'on vote sur la loi. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va être intégré dans le cadre de cette ordonnance, sur ce qui sera admis ou pas dans ces déductions. C'est la première chose. Donc aujourd'hui, on nous dit au niveau du gouvernement jurassien qu'on souhaite introduire ce taux à 150% sans savoir exactement ce qu'il y aura dedans. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, imaginez-vous comment on va pouvoir contrôler ces différents éléments de recherche et développement. C'est quelque chose qui se passe au sein des entreprises, qui sera extrêmement difficile à contrôler. Et moi, je me réjouis de savoir comment, au niveau du service des contributions, on va pouvoir contrôler de manière efficace ce genre de choses.
Alors, tout d'abord, apparemment, on ne peut pas chiffrer ces éléments, comment votre chef de file national, M. Levrat, peut dire que ça va coûter 3 milliards ? Moi, j'en sais rien, puisque apparemment, ou bien on a des chiffres qui sont plus ou moins fiables de part et d'autre, ou bien alors les chiffres qui sont annoncés par M. Levrat sont encore plus faux.
Mais c'est au niveau national, moi je vous parle au niveau jurassien.
Je suis d'accord, mais ces chiffres nationaux, ils sont... Alors, mais dites-nous, quelle est la part de ces 3 milliards qui concerne le Jura, puisque c'est une compilation de l'ensemble des pertes de la Confédération et des cantons. Si M. Levrat, ça va coûter 3 milliards.
Je suis désolé de vous apprendre que je ne suis pas ministre des Finances. Donc je peux
mais ce n'est pas une question d'être ministre des Finances ou pas.
Je n'ai pas les éléments en ma possession pour pouvoir répondre à cette question. Et je ne vous fais pas un reproche sur vos compétences.
Non.
Je dis simplement que vous aussi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre à cette question. C'est bien normal.
Précisément, non.
C'est bien normal puisque l'ordonnance du Conseil fédéral n'est pas connue en la matière. Donc aujourd'hui, on a un projet sur lequel on ne sait pas ce que ça va coûter concrètement aux finances publiques.
Non, mais alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que nous ne sommes pas partis avec des chiffres comme ça hypothétiques en dressant tout à coup sur un bout de papier, sur un coin de table de bistrot, voilà ce qu'on va faire. Nous avons consulté les entreprises, nous avons étudié 80 dossiers des principales entreprises de ce canton, nous nous sommes entretenus avec 50 de ces entreprises pour leur dire, écoutez, voilà, vous savez ce qui va se passer, la réforme de la position des entreprises 3, il y a le taux, il y a ces différents éléments-là. Comment vous voyez utiliser ces instruments ? Et fort de ces discussions, fort des contacts que nous avons eus avec eux, eh bien, nous pouvons estimer que le coût global, y compris l'utilisation des outils que nous avons retenus, et je répète, nous n'avons pas retenu les NID, eh bien, on arrive aux chiffres que nous avons publiés.
Oui, c'est entre 15 et 20 millions de
Imaginez,
on vous laisse le mot de la fin, Charles Juillard a commencé, Loïc Daubert, mais très brièvement.
Imaginez-vous juste, on est en train de dire, de demander aux entreprises comment elles vont appliquer un certain nombre d'outils dont on ne connaît pas la mise en pratique.
Mais
c'est quand même fantastique et un peu particulier.
Mais c'est de la mauvaise foi parce que c'est absolument faux. Ce que nous avons, ces outils et le service des contributions va le contrôler comme il le contrôle déjà aujourd'hui, je peux vous l'assurer. Et c'est simplement...
Il n'y a pas d'ordonnance.
C'est l'avenir de l'emploi et des recettes fiscales dans ce pays qui sont en jeu aujourd'hui.
Voilà, messieurs. Le temps passe vite, le débat est nourri, il est passionnant. En tout cas, Loïc Daubert, Charles Juillard, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour débattre de cette RIE3, sujet sensible, on l'a encore très bien compris aujourd'hui. C'est finalement le peuple suisse qui décidera le 12 février. Vous retrouverez cette édition de Pure Politique dans quelques minutes en podcast sur rfj.ch. Excellente soirée.
Merci.
Merci.
Pure Politique sur RFJ.